divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours.
Auditrice, auditeur, bonjour. Au micro, David Gozlan, secrétaire général de la Fédération nationale de la libre-pensée. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Bonnemère, président du CNAFAL, c'est-à-dire le Conseil national des associations familiales laïques. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Alors Jean-Marie, on va entrer dans le vif du sujet. L'action familiale laïque, d'autant plus, nous intéresse, nous, Libre Pensée. Est-ce que tu peux d'ores et déjà présenter votre association ?
Oui. Alors, c'est d'abord un mouvement laïque, bien évidemment, par définition. Mais le paradoxe, c'est peut-être d'avoir juxtaposé le mot famille et le mot laïcité. Pourquoi ? Parce que la thématique familialiste et familiale date de 1875 et elle est une réaction contre la République et l'établissement de la République. L'historien du mouvement familial qui est l'abbé Talmy et qui est imprégné bien sûr de catholicisme s'y réfère lorsqu'il dit par exemple qu'à partir de 1789, c'est sur l'individu que la société devra désormais s'édifier. La famille fera les frais de l'émancipation du citoyen. Ou bien encore, le même bouleversement qui renverse la monarchie héréditaire détruit la famille. Le divorce est une conséquence de la démocratie, car en posant le principe de la souveraineté populaire dans l'État et dans l'Église, l'Assemblée constituante a préparé les voies du divorce. Je pourrais multiplier les citations, oui. Tout ça pour montrer que pendant quasiment 70 ans, cette idéologie-là va nous conduire, bien évidemment, à l'établissement du régime de Vichy.
Qui a mis en avant la famille, justement.
A mis en avant la famille comme cellule de base de la société, bien évidemment opposée à la conception citoyenne issue de 1789 et donc au libre arbitre, à la liberté d'expression et à la liberté de penser. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont justement des déportés et des résistants qui s'étaient battus contre le régime de Vichy, contre ces conceptions-là, qui décident à partir de 1947 de créer le premier mouvement familial laïque. Pourquoi ? Parce que ils ont vécu la montée, effectivement, des idées vichistes et contre-révolutionnaires des années 30. Et à partir du moment où De Gaulle avait légalisé, à travers l'ordonnance de 45, qui fait que l'UNAF est une institution de la République, le mouvement familial, ils ont estimé qu'il fallait aller au contact, dans la bataille des idées, avec ces conceptions-là. D'où la naissance, effectivement, du mouvement familial laïque, mais qui ne s'inscrit pas du tout dans l'idéologie familialiste. Bien sûr, puisqu'on se réfère aux idéaux de la République, à l'émancipation sociale et à tout ce que peut porter le citoyen en termes de liberté.
Alors, donc, la fameuse ordonnance de 45, si tu permets, on va juste revenir dessus. Vous considérez qu'effectivement c'est une avancée, hein, parce qu'elle rompt quelque part avec le régime de Vichy. Est-ce qu'aujourd'hui elle est mise à mal ? Est-ce qu'elle est en danger ?
Alors, en fait, cette forme-là, l'UNAF a eu quand même pas mal de vicissitudes au cours de son histoire, du fait que quand même elle était sur un positionnement très conservateur, voire parfois dans certains cas très intégriste. Lorsqu'on a intégré l'UNAF en 1979, les choses avaient peu bougé. Ce qu'a amené l'ordonnance du général de Gaulle, c'est d'instituer véritablement le pluralisme au moins au niveau des statuts de l'UNAF.
D'accord.
Après, dans la réalité, c'est autre chose. Par exemple, l'UNAF a à peu près 150 postes de représentation nationale auprès de l'État. Par exemple, à la CNAF, il y a 5 représentants familiaux. Bien évidemment, il n'y a aucun laïc qui représente cette institution auprès de la CNAF. Et quand je dis 150, on n'a qu'un seul représentant. Donc, on voit bien que alors que la mission, c'est de représenter la totalité des familles, on est loin du compte. Et on l'a vu, bien sûr, avec le mariage pour tous, où l'UNAF s'est battu contre, et en étant proche, bien évidemment, de ceux qui défilaient contre le mariage pour tous.
Oui, alors ça fait vraiment ma transition, parce que c'est vrai que lorsque l'on a vu dans l'actualité la question des familles ressortir récemment, c'est toujours ce fameux mot d'ordre, un papa, une maman, bon, deux enfants, d'accord, qui seraient la famille. Là-dessus, vous avez pris quelle position dans cette bataille-là? Et beaucoup plus loin, est-ce qu'il y a une véritable offensive cléricale autour de l'action familiale en France?
Alors, sur la première partie de la question, le CNAFAL a toujours déclaré, dans sa déclaration de principe, que pour lui, il n'y avait pas de famille standard. On a toujours accueilli dans nos rangs, par exemple, les familles monoparentales. En 1990, quand il a été question du Pax, on a appuyé, bien évidemment, le Pax et on a défendu l'association des parents gays et lesbiens qui souhaitait faire son entrée à l'UNAF et qui avait été refusé par les dirigeants de l'époque, malgré d'ailleurs une lettre d'appui de Ségolène Royal. Et donc, à partir de 2012, lorsque la question est revenue sur le tapis, bien évidemment, on s'était rencontré au cours des 15 dernières années avec la PGL. On a repris langue pour unir nos efforts et bien évidemment pour se battre en faveur de cette loi. Ce qui n'a pas été du tout simple. Et on a bien vu que, à travers cette affaire-là, une grande partie de la vieille droite vichiste, maurassienne et bien sûr catholique intégriste, mais qui déjà avait repointé le nez du temps de l'ère Sarkozy, a trouvé effectivement un boulevard devant elle, parce que on peut pas dire, mis à part Madame Bertinotti et Christiane Taubira, qu'il y ait eu un grand écho, puisqu'on a vu des déclarations d'ailleurs de députés socialistes disant faut laisser tomber cette loi, c'est trop dangereux, et qui était prêt à faire un recul. D'ailleurs, Hollande lui-même a reculé après 15 mois, lorsqu'il a dit « bon, mais on va pas plus loin, et on ne fait pas d'ouverture sur la PMA », alors que c'était prévu dans ses 60 points de sa campagne présidentielle.
Oui. Alors, là-dessus, sur les réponses, par exemple, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent un petit peu le CNAFAL, vous, en matière à la fois de laïcité, même dans le champ social, quelles sont vos actions, quelles sont vos démarches, quelles sont vos réponses sur ces questions-là de laïcité?
Alors, sur la laïcité, nous sommes agréés Organisation nationale de consommateurs maintenant depuis 35 ans. Ça a été une volonté. Pourquoi ? Parce que on souhaitait s'inscrire pleinement aussi dans le champ social et de ne pas oublier, je dirais, dans la détermination de la destinée des individus, le poids de l'économique et le poids du financier. Mmh. Et on en voit d'ailleurs tous les jours la résultante. Donc on se situe comme étant une organisation de consommateurs non consuméristes. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de replâtrer les effets du régime capitaliste ou libéraliste. Il s'agit effectivement de se pencher à partir du moment où il y a fabrication d'un produit, à partir du moment où il y a des gens derrière qui les fabriquent, de s'intéresser à leurs conditions de travail, de s'intéresser à la manière dont un produit est fabriqué, et bien sûr dans la manière dont il est vendu, et y compris par rapport à l'extraction de la plus-value. Donc de ce point de vue, on se situe totalement à gauche, et on ne s'interdit rien dans le champ de l'économie et du financier, et bien sûr que l'on est une critique profonde de ce qui est en train de se passer ces 20 dernières années dans ce champ-là. Et c'est important de faire de l'éducation du consommateur. Et également, on fait à travers des stages de formation de l'accès aux droits dans tous les domaines. Logement, santé, travail, consommation, etc.
Oui.
C'est-à-dire, en fait, essayer de fabriquer des citoyens au jour le jour et dans la quotidienneté des choses.
Il y a un côté éducation populaire encore.
Voilà, tout à fait. On est agréé mouvement d'éducation populaire. Et notre but, c'est en partant effectivement de difficultés de vie au concret, d'apprendre effectivement aux citoyens et aux citoyennes à se défendre eux-mêmes, c'est-à-dire en leur donnant des éléments juridiques, en leur donnant des chemins pour taper aux bonnes portes, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, de telle sorte qu'ils puissent faire valoir leurs droits. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment notre leitmotiv.
Bien, dans les enjeux, Jean-Marie, dans les enjeux qu'il y a autour de la laïcité, il est vrai qu'il y a des enjeux où, alors nous c'est ce qu'on pense en tant que Fédération nationale de la libre pensée, qu'il y a un nouveau problème, mais qu'un problème créé, qui serait ce problème de l'islam, et qui est un problème qui est surtout pour nous, libre pensée instrumentalisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'imagine que vous rencontrez des familles de toute catégorie, de tout type de lieu, à la fois dans le monde rural, dans le monde urbain. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle, qui serait une nouvelle problématique en quelque sorte?
Alors, tout d'abord, le CNAFAL depuis 20 ans, au siège national, a un bureau d'accès aux droits pour les immigrés, quel que soit leur statut. C'est-à-dire qu'il nous arrive de recevoir des clandestins qui cherchent par la voie légale à obtenir des papiers. C'est un bureau ouvert. Nous ne sommes pas subventionnés pour cette action. Nous sommes d'ailleurs reconnus pour notre technicité par le ministère de l'Intérieur. Et on est toujours sur le registre, effectivement, de l'accès aux droits, y compris pour les étrangers et quel que soit leur statut. Ensuite, sur la deuxième partie de la question... Le CNAFAL a été toujours très prudent par rapport à ceux qui revendiquent la laïcité que par rapport à l'islam. D'autant que ces débats-là, faut avoir de la mémoire, ils ont commencé à partir de Charles Pasqua. C'est le premier qui, du côté de cet échiquier politique, a mis en avant la laïcité pour combattre l'islam. Et puis, bien sûr, il a eu des continuateurs, il a eu des disciples. Et on a bien vu que depuis 7 ou 8 ans, il y a un terrible brouillage politique à ce niveau-là. Marine Le Pen est le même, des éléments notoires des Républicains également. Et à gauche, on a bien vu aussi qu'il y avait des voix dissonantes. Ce qui veut dire que quand même, il faut en revenir, d'une part, aux fondamentaux de la laïcité, qui est bien sûr la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté d'expression. Et il n'y a jamais eu de volonté de mettre à l'index telle religion plutôt que telle autre. D'ailleurs, moi, je suis parfois étonné que certaines focalisent que sur la question de l'islam, alors qu'on ne les a pas entendus ou très peu entendus avec la montée de l'intégrisme catholique au cours de ces dernières années.
Oui, bien sûr. Oui.
Bon,
oui.
Oubliant que quand même, leur emprise sur la société, et on l'a vu d'ailleurs sur tous les sujets contemporains, est réelle, ne serait-ce que par exemple pour le droit de mourir dans la nullité, où les catholiques ont fait pression, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de balance égale. En plus, au demeurant, et parce que précisément on a un bureau de l'immigration, certains utilise l'islam pour dire l'intégration à la française, ça ne marche pas. Moi, je dis que c'est le contraire. Ça marche plus qu'ailleurs. Et en tout cas, par rapport à l'ensemble des autres pays européens, c'est en France qu'il y a le plus de mariages mixtes. Il y a 28% de mariages mixtes définis, d'une part, entre un ou une Française, entre guillemets, de souche, et ensuite des gens natifs, effectivement, des pays du Maghreb ou d'autres pays, mais qui en sont parfois à la troisième ou quatrième génération. Je suis d'ailleurs gêné aussi par rapport à ça, parce qu'on en arrive finalement à qualifier de musulmans ou d'arabes des gens qui sont depuis la troisième ou quatrième génération en France.
Oui, bon. Oui, qui n'ont plus rien à voir.
Donc on voit bien que les choses sont pipées. Qu'il y a un arrière-plan, bien évidemment, de discrimination et de racisme. Et là, il y a quand même eu des failles de la part de nos gouvernants, quels qu'ils soient, voire le dernier débat aussi sur la politique de la ville et sur les quartiers Molenbeek. Moi, ma réponse, c'est très clair. La plupart des élus locaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont été à la tête d'offices publics d'HLM. Tous. Donc, ils maîtrisaient les politiques d'attribution et de peuplement. Qui sont les responsables si effectivement dans certains quartiers il n'y a pas de mixité?
Ah oui, c'est vrai que c'est un nom qu'on n'a pas vu.
Ce sont bien les élus locaux. Et maintenant, je les entends monter au créneau parce que effectivement, on voudrait nous faire croire, et ça vise à faire peur aux gens, qu'en France il y aurait une centaine de Molenbeek. Donc je dis, moi là-dessus, faut arrêter. Parce qu'on pointe du doigt certaine catégorie de la population. En plus, on sait bien que c'est une poignée, que le problème est quand même très complexe, qu'il y a des problèmes de géopolitique. Mais bien sûr, si on peut court-circuiter dans ce débat-là, les citoyens, on le fera. Donc je me refuse à rentrer effectivement dans ce type de débat, parce que chaque fois, on est dans une posture électoraliste, clientéliste, et en plus, on fait le jeu de l'extrême droite.
Bah écoute, Jean-Marie, je te remercie. Je pense que tu viens de faire la démonstration qu'il peut y avoir une politique familiale, laïque et sociale, je dirais. Hein, et sociale, c'est important. Juste en 20 secondes, 30 secondes, est-ce que toi, tu as quelque chose à signaler aux auditeurs qui permettrait justement de garder non seulement un espoir, mais qui permettrait aussi de voir la lumière au bout du tunnel, je parle pas d'autre chose, hein, la lumière au bout du tunnel et une perspective d'espoir.
Alors, au principe laïque, il y a deux mots, l'émancipation sociale et l'égalité. Et je crois que c'est les deux boussoles que nous devons avoir dans la période présente où on voit bien qu'il y a plein de pêcheurs à nos troubles de partout.
D'accord. Bon, très bien. Je te remercie, Jean-Marie. Avant de rendre l'antenne, le livre du mois, c'est une revue. C'est la revue de la libre-pensée L'Idée Libre, le numéro 312 qui vient de sortir. Vous pouvez l'obtenir à 8,50 € en écrivant à Libre-Pensée, 10-12 rue des Fossés Saint-Jacques, et en envoyant un chèque donc de 8,50 €, ordre Libre-Pensée. Le dernier numéro, c'est sur le Canada, dossier au Canada, extrêmement intéressant. Je remercie à la technique Philippe Palares et à la réalisation Dany Journeau. En vous remerciant, au revoir.
Sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.